Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Un homme armé d'un couteau abattu par la police à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Reporters sans frontières dénonce des agressions récentes par des colons israéliens visant des journalistes palestiniens. Le Secours populaire débloque une aide d'urgence de 50 000 euros pour la population de Gaza et lance un appel à la solidarité. Entretien avec Corinne Makowski, secrétaire nationale de l'ONG. La commande de céréales ukrainiennes destinées au Liban a finalement été annulée. La Grèce a lancé des recherches en mer Égée pour secourir des migrants après le naufrage de leur bateau. Ce que demandent les enseignants à juste titre, c'est une augmentation de salaire pour tous et pas des primes. Yannick Trigance, secrétaire national du PS, réagit aux annonces du gouvernement sur l'éducation. Enfin, 16 départements en vigilance orange canicule dans le sud-ouest de la France. En France, un homme a été tué ce matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. L'homme menaçait la police avec une arme blanche. Les faits se sont déroulés au terminal 2F vers 8h20. L'homme tué était un sans-abri. Il avait menacé des membres du personnel des aéroports de Paris ainsi que des passagers. La police aux frontières est alors intervenue. Malgré les sommations, l'individu armé d'un couteau s'est avancé vers les agents qui l'ont abattu. À ce stade, l'incident n'est pas considéré comme terroriste. Reporters sans frontières dénonce les agressions contre des journalistes palestiniens le week-end dernier à Jérusalem. L'ONG évoque le cas d'Ahmed Ralabli, photographe attaché à l'agence France Presse, arrêté par la police israélienne. Autre incident, il concerne Mohamed Achou, journaliste à El Mayadin, frappé avec le manche d'un drapeau par un colon israélien. Quant au photographe raciste Hassan Abouaid, il a été attaqué par un colon israélien dans un quartier résidentiel de Jérusalem-Est. RFS regrette que des journalistes palestiniens constituent toujours des cibles faciles du simple fait qu'ils sont de nationalité palestinienne. Après les violents bombardements qui ont tué 46 Palestiniens et fait 360 blessés, le Secours populaire lance un appel à la solidarité pour soutenir la population de Gaza. L'ONG française a débloqué un premier soutien financier de 50 000 euros. Pour répondre aux cris d'alarme de son partenaire Palestinian Medical Relief Society, entretien avec Corinne Makowski, secrétaire nationale du Secours populaire.
Bien, nous avons reçu très vite un appel de notre partenaire sur place qui s'appelle Palestinian Medical Relief Society, avec lequel le Secours populaire français travaille depuis plus de 40 ans maintenant, qui est sur le terrain et qui est auprès des victimes civiles, qui est essentiellement composé de professionnels de santé. Et donc, sur place, ils aident les blessés. Ils interviennent aussi auprès des personnes sinistrées qui ont tout perdu. Et donc, ils ont aussi lancé un appel pressant à ce que la solidarité internationale puisse se mettre en place. Donc, immédiatement, nous avons assuré d'un soutien de 50 000 euros dans un premier temps, que nous avons pris sur notre fonds d'urgence solidaire, qui permet justement dans ce type de situation d'urgence de pouvoir donner les moyens à notre partenaire sur place d'agir encore de manière plus intense et en attendant que les dons arrivent et que ce fonds soit reconstitué.
Le rôle des ONG est très important dans la bande de Gaza puisque il n'y a pas beaucoup d'infrastructures.
Non, et vous savez que la bande de Gaza, c'est une des zones les plus densément peuplées au monde. Et il y a la moitié de la population qui a moins de 18 ans. Il n'y a pas d'endroit pour se mettre à l'abri. C'est une zone qui subit depuis maintenant 16 ans un blocus. Et donc c'est terrible pour la population locale. Effectivement, les attaques assez régulières et les infrastructures sont détruites, abîmées, et donc c'est compliqué pour eux d'avoir accès à certains matériaux, de pouvoir reconstruire, manque d'électricité, d'eau potable. Enfin voilà, c'est dans un environnement assez apocalyptique en plus que la population subit ces attaques, et en particulier quand elle frappe aussi les enfants et les jeunes, c'est encore plus terrible. Mais heureusement que la société civile, à travers les associations, peut organiser comme elle le peut, avec le peu de moyens qu'elle a, la solidarité directe aux personnes qui sont blessées ou sinistrées.
Il y a eu une forte émotion au moment de cette attaque contre Gaza, mais une fois que l'attention médiatique retombe, il faut absolument continuer à aider cette population. C'est important le jour d'après.
Oui, c'est une solidarité qui doit être permanente au plan international. Il faut redonner espoir aux jeunes, il faut redonner espoir aux enfants. Nous, on accueille aussi des enfants, des jeunes, pour des échanges avec d'autres enfants et jeunes en France ou ailleurs. Il faut redonner cet espoir aux jeunes, et on a l'impression que c'est sans fin. C'est une violence permanente qui se répète. Et effectivement, la tendance serait de dire bon ben on s'y résigne. Non, il faut pas s'y résigner, il faut résister. Et pour le Secours populaire, en tout cas, c'est à travers des actes très concrets de solidarité qu'on continue à soutenir l'effort de ces associations qui, au péril de leur vie, sont auprès des personnes qui en ont le plus besoin.
Le Secours populaire agit principalement en France, mais vous avez une activité internationale assez importante également.
Elle est effectivement moins connue, puisque en ce moment on va parler beaucoup des départs en vacances, de tout ce qu'on fait dans l'aide aussi aux personnes en précarité chez nous. Mais effectivement, la solidarité internationale, c'est tous les fronts, c'est avec des acteurs locaux, c'est très important que nous soutenons. Donc nous n'allons pas sur place, mais nous agissons à travers ces acteurs locaux qui connaissent le mieux les situations, les priorités. Et effectivement, l'actualité internationale, il y a les urgences, il y a la guerre en Ukraine, il y a d'autres conflits ailleurs, il y a le Liban, si on reste dans la région, il y a aussi Jérusalem-Est et d'autres territoires. Hein, mais il y a aussi effectivement tout l'effort qui doit être soutenu tout au long de l'année, dans les programmes de développement qui permettent d'améliorer les conditions de vie des gens et qui se font d'ailleurs à partir de leur propre effort. Donc c'est très important que ce réseau de solidarité auquel chacun et chacune peut contribuer, évidemment l'argent c'est le plus important, ça permet aussi de soutenir tous ces gens qui agissent, qui se bougent, y compris les personnes qui en ont besoin elles-mêmes, qui contribue, et voilà, cet effort de mondialiser la solidarité est pour nous essentiel et dans le cœur de nos valeurs.
Le Secours populaire est financé principalement par des dons venant de particuliers.
Alors l'essentiel des dons sont privés, 20% provient de soutien public, et donc ça vient effectivement principalement des initiatives de collecte financière qui sont organisées par tous ceux qui veulent y contribuer. Et effectivement, nous avons aussi un soutien important de personnes qui individuellement nous transmettent des dons financiers, tout comme des entreprises, des fondations d'entreprises voilà, qui participent, mais aussi tous ceux qui décident d'affecter un leg, une donation, une assurance vie à l'association.
Corinne Makowski, secrétaire nationale du Secours populaire, et pour plus d'informations sur cette aide à la population de Gaza, vous pouvez consulter le site secourspopulaire.fr. En Grèce, les gardes-côtes recherchent des dizaines de migrants naufragés au large de l'île de Karpathos. Leur bateau a coulé dans le sud-est de la mer Égée. Jusqu'à présent, 29 personnes ont été secourues, des Afghans, des Irakiens et des Iraniens, mais entre 20 et 50 autres personnes étaient sur le bateau qui a coulé. L'embarcation était partie de la ville d'Antalya en Turquie et devait rejoindre l'Italie. le contrat de vente du premier chargement de céréales exportées par l'Ukraine a été annulé en raison du retard de livraison. La cargaison devait être livrée à Tripoli au Liban. Le navire avait quitté le 1er août le port d'Odessa sur la mer Noire avec 26 000 tonnes de maïs. 15 soldats burkinabés tués ce mardi lors d'une double attaque dans le nord du Burkina Faso. Selon l'armée, des renforts ont été dépêchés sur les lieux de l'incident pour évacuer les victimes. Des opérations de sécurisation ont eu lieu dans la zone de l'attaque. L'Iran a octroyé à Fariba Adelka une permission de sortie de 5 jours. C'est ce qu'a annoncé le comité de soutien de la chercheuse franco-iranienne qui purge une peine de 5 ans d'emprisonnement en Iran. Cette annonce intervient au moment où les grandes puissances attendent une réponse de Téhéran à une proposition des Européens sur le programme nucléaire iranien. En France, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a annoncé une hausse historique des crédits pour l'éducation nationale. Il s'agit pour le gouvernement d'augmenter les salaires des enseignants qui entrent dans la carrière. Réaction de Yannick Trigance, secrétaire national du PS, en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Gabriel Attal, effectivement, parle d'une hausse, il parle même d'ailleurs d'une hausse historique. Je pense qu'il faut ramener les choses à leur juste niveau et à leur juste proportion. On ne peut que se satisfaire, effectivement, lorsque l'on parle de hausse. Mais enfin, cette augmentation a des précédents historiques meilleurs que ce qui est annoncé aujourd'hui. Je rappellerai simplement que sous Lionel Jospin, de 1988 à 1992, il y avait eu une hausse nettement supérieure à celle que propose aujourd'hui Gabriel Attal et son gouvernement, puisque... il y avait eu une augmentation budgétaire en proportion par rapport au PIB qui était passée de 6,6% à 7,6% du PIB. Ça représentait quand même 1%, ce qui est absolument énorme, contrairement à ce que propose aujourd'hui Gabriel Attal, qui ne va générer une augmentation que de 0,3%. Deuxième élément, dans l'histoire aussi assez récente, en 2016, Najat Vallaud-Belkacem a augmenté de près de 3 milliards le budget de l'enseignement scolaire en 2017, avec une inflation qui était à 1%, alors qu'aujourd'hui l'inflation est à 6%, et que la hausse qui est proposée aujourd'hui va être évidemment avalée assez fortement par une inflation qui est importante. Alors, il y a une hausse, et c'est une bonne chose, mais c'est une hausse qui, pour les enseignants, va être très largement insuffisante, et qui surtout... pose un certain nombre de questions.
Gabriel Attal affirme que cette hausse dans le budget de l'éducation nationale va permettre de financer les augmentations de salaire des jeunes enseignants.
Effectivement, dans les annonces qui sont faites, on nous parle des débutants, dont acte. D'abord, il faut que ça soit bien des augmentations de salaire et non pas des primes, parce que jusqu'à présent, le ministre Blanquer a procédé un certain nombre de primes. Ce que demandent aujourd'hui les enseignants et leurs organisations syndicales à juste titre, c'est une augmentation de salaire. Mais pas que pour les débutants, parce que les débutants, très bien, si aujourd'hui un débutant commence, comme c'est annoncé, à 2000 euros, quid d'un enseignant qui enseigne depuis maintenant plusieurs années, de 5 à 10 ans, et qui, lui, est déjà à 2000 euros. On ne peut pas avoir des enseignants qui débutent avec le même salaire que des enseignants qui ont une ancienneté importante. Et donc, premier élément, il ne faut pas que ce soit des primes, il faut que ce soit des augmentations de salaire. Deuxième élément, il faut discuter de l'augmentation des salaires des autres enseignants. C'est quelque chose qui est absolument important. Troisième élément, moi je suis quand même un petit peu inquiet de la manière dont les choses sont présentées, parce que Gabriel Attal, comme d'ailleurs Emmanuel Macron, insinuent dans leur proposition de soumettre ces augmentations à une accentuation, à une augmentation des missions des enseignants. Or, aujourd'hui, la revalorisation salariale des enseignants, c'est un dû. Ça n'est pas quelque chose qui doit être fait contre, par exemple, accepter de remplacer d'autres enseignants absents ou travailler sur le temps périscolaire. Non. La réalité, c'est que la fonction enseignante a besoin d'être revalorisée et que cette revalorisation, ça n'est pas sous... conditions. C'est une revalorisation qui est nécessaire par rapport à la dégradation des conditions aujourd'hui de vie des enseignants par rapport à leur salaire.
Est-ce qu'une telle annonce sur la revalorisation des salaires des enseignants débutants peut rendre le métier plus attractif puisqu'on sait qu'on manque d'enseignants ?
C'est un des éléments, mais malheureusement, ça n'est pas le seul. Aujourd'hui, on le voit bien, la question salariale, elle est présente, mais ce que demandent aussi les enseignants, c'est des conditions de travail qui soient des conditions de travail satisfaisantes. On ne peut pas avoir dans certains établissements, dans le second degré, des classes à 30, 35 élèves pour enseigner. Ça n'est pas possible. Ça veut donc dire qu'il faut davantage d'enseignants dans nos classes. Il faut donc rendre le métier attractif. Ça passe par la revalorisation salariale, ça passe par les conditions de travail, ça passe aussi par la formation initiale, bien évidemment. Le ministre Ndiaye, le nouveau ministre, a organisé des job dating pour recruter pendant l'été quelques 2000 enseignants qui, pour l'instant, manquent encore. Et ce sont des gens qui vont se retrouver le jour de la rentrée dans des classes sans aucune formation. C'est quand même assez problématique. Et deuxième élément, c'est aussi la formation continue, puisque les enseignants, tout au long de leur carrière, ont besoin d'être formés. Donc salaire, oui, mais aussi conditions de travail, formation initiale et continue. Je parlerai également de la question de la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, un enseignant, il faut quand même savoir, et ça, l'opinion publique ne le sait pas, mais par exemple, au cours de sa carrière, vous avez des enseignants qui ne rencontrent et qui n'ont aucune visite médicale dans le cadre de la médecine du travail. Donc là aussi, dans l'accompagnement, dans le suivi de des enseignants, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui, notamment au travers de la crise sanitaire, mais bien au-delà, souffrent dans leur travail. Vous le savez, il y a un certain nombre de démissions, il y a des demandes de mobilité, des demandes de disponibilité parce que aujourd'hui le corps enseignant est en souffrance et qu'il faut aussi s'attaquer à cette question-là.
Yannick Trigans, secrétaire national du PS en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Le député de la majorité Sacha Houlier souhaite que le droit de vote soit élargi à tous les étrangers pour les élections municipales. Le président de la commission des lois a déposé une proposition de loi en ce sens, proposition soutenue par des députés de gauche, mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit opposé à une telle idée, tout comme la droite et l'extrême droite. Enfin, Météo France a levé l'alerte orange canicule. Sont toujours concernés par des températures très élevées. Dans le sud-ouest, les maximales iront de 34 à 39 degrés et localement jusqu'à 40. Dans le sud-est, on attend de 31 à 35 degrés, 36 degrés en basse vallée du Rhône. Cette édition est terminée. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.